Merci Jane pour ces rappels de l'amour tout-puissant du Seigneur qui nous accompagne. Je vous invite à méditer ce matin la parole, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, veuille bien ouvrir nos cœurs, notre esprit, à l'écoute de ta parole et conduis-nous, Seigneur. Amen. Alors, nous sommes au début du mois d'août, vous n'avez pas raté ça, je crois, et les bancs sont un peu clairsemés, on voit la différence par rapport à la semaine dernière. Certains sont déjà de retour, d'autres habitués ont quitté Cannes pour laisser la place aux visiteurs, et je vous renvoie aussi des visiteurs, aux touristes qui viennent profiter de la mer et de la chaleur. J'en profite pour leur souhaiter la bienvenue à tous ces visiteurs de passage dans notre communauté et qui viennent découvrir la Côte d'Azur. Enfin, les vacances. Après une année de travail, de stress, de joie, de frustration parfois, ce sont les vacances. Et c'est peut-être le temps du repos. Certes, il y a les Jeux Olympiques, on ne peut pas l'ignorer. Beaucoup s'agitent, s'émeuvent, se passionnent, il y a du spectacle. Et j'aurais donc pu vous parler de courses et de trophées, comme Eric la semaine dernière, je pense, hein, de médailles, de combats, non pas ceux des athlètes réunis à Paris, mais ceux dont nous parle l'apôtre Paul, le combat de la foi. Pourtant, je me suis laissée tenter par le repos. Après l'effort, le réconfort. Et je vous invite à lire ce matin un texte qui, à sa manière, nous parle de vacances. En fait, non, plutôt de repos. Il s'agit de Marc 6, alors c'est dans l'évangile de Marc, hein, au chapitre 6, et ce sont les versets 30 à 34. Alors, au début du chapitre 6, qui est relativement long, les disciples ont été envoyés par Jésus, hein, pour prêcher la conversion, le changement radical, et chasser des démons, soigner les malades. Et une fois leur mission terminée, ils se retrouvent auprès de Jésus et ils se rassemblent autour de leur maître. Donc je vais lire cette version de la Nouvelle Bible Second avec le titre « Jésus nourrit 5000 hommes ». Je vous en parlerai plus tard. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner des quantités de choses. Voilà, jusque-là la lecture. Alors j'ai pris... excusez-moi, la liberté de redécouper un peu ce texte. En effet, ce moment de repos introduit l'épisode de la multiplication des pains. Vous avez vu, Jésus nourrit la foule. Et dans les choix de nos éditions bibliques, il n'est pas visuellement détaché de l'épisode suivant. D'ailleurs, dans la version de la Bible Second, vous avez pu voir le titre, l'éditeur l'a intégré sous le titre de « Jésus nourrit la foule ». Ou multiplication des pains dans d'autres éditions, c'était comme une introduction à cet épisode, certes majeur, c'était comme une simple transition sur laquelle nous passerions sans nous arrêter. Alors aujourd'hui, je vous demande de vous arrêter un petit peu sur ces quelques phrases qui sont dans ce texte. Nous nous centrerons sur les douze, ces douze disciples choisis par Jésus de retour de mission, et qui sont pour la première fois dans l'Évangile appelés apôtres, apostolos en grec, pour ceux qui suivent. Et en fait, apostolos, ça peut être un envoyé, un ambassadeur. C'était tels des ambassadeurs étaient ses disciples envoyés. Alors, ces disciples, ces ambassadeurs, seraient-ils, comme la plupart d'entre nous le faisons ou le ferons, seraient-ils invités à prendre des vacances? Alors, je vais revenir brièvement sur le contexte, sur ce qui précède cet épisode dans l'évangile de Marc. Les 12 ont donc été envoyés en mission, je viens de le dire, et nous lisons au verset 6 de ce même chapitre que Jésus parcourait les villages des alentours pour enseigner. Jésus les nomme ses disciples, il est donc leur maître. Ils sont 12, le chiffre est important et aussi symbolique pour les 12 tribus d'Israël, 12 proches, ses disciples, qu'il envoie par deux comme un lien entre deux alliances, la première, celle de l'Ancien Testament, et la deuxième, le Nouveau Testament. Cette campagne de mission n'a pas été de tout repos. Le texte nous dit que ce n'était pas un déplacement en hôtel 5 étoiles, en bord de mer, avec boisson à volonté, aux frais de l'entreprise. Même le bagage était superflu. Nous lisons au verset 6, que vous avez là-dessus, « Ne prenez ni provisions, ni sacs, ni argent dans vos ceintures, mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Dans la maison où vous entrerez, vous resterez jusqu'à votre départ, et si on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez, radical. » Et ils obéissent, ces disciples. Ils traversent le pays, ils vivent des choses extraordinaires en annonçant qu'il fallait changer profondément. Ils vivent des guérisons, des démons qui sont chassés, des émotions positives et aussi certainement des émotions négatives, des bénédictions, des déceptions certainement. Imaginez un peu leur état quand ils sont rentrés. C'était sans doute un peu comme un mélange d'excitation, mais aussi d'épuisement physique. De plus, entre ces quelques versets du début du chapitre, comme enchâssés dans le récit des disciples envoyés et des disciples de retour, nous avons un épisode relativement long qui relate la mort tragique de Jean-Baptiste. Et étonnant, au milieu, là, entre les deux, Hérode avait fait arrêter le prophète et il était en prison quand le piège de Hérodiade, sa femme, se referme sur lui. Et quand elle demande la tête de Jean-Baptiste et celui-ci est décapité. Je pense que je dois avoir, voilà, Hérodiade qui est là. Et Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui encore Jean-Baptiste, ce prophète. Il avait baptisé Jésus, il avait baptisé ses propres followers, ses propres disciples. Et c'était certes le baptême de la repentance qui marquait aussi la fin de la première alliance et le début de la nouvelle. Avec Jésus, le Messie, la nouvelle alliance, encore le prophète de la transition, encore une transition. Donc, juste avant l'extrait, nous pouvons lire que les disciples de Jean viennent d'ensevelir le prophète. Une tristesse profonde s'empare certainement du groupe des disciples et aussi, non seulement ceux de Jean, mais aussi ceux de Jésus, car même sans réseaux sociaux, les nouvelles vont très vite. Ils sont certainement en deuil, profonde tristesse. Après ces moments épuisants et passionnants autour de la puissance de l'Évangile, c'est maintenant le vide, le trou. Jean-Baptiste a été décapité par dépit, par lâcheté, on le sait. Le mal en action a frappé une fois de plus. Et ce sont dans ces circonstances que Jésus appelle ses disciples. Il les appelle à se réunir auprès de lui pour leur proposer du repos. Alors, qu'entendons-nous par repos? Nous avons certainement chacun une définition tout à fait particulière. Nous avons nos rituels de repos, certainement. Dans la Bible, le repos est important. Tellement important qu'on en trouve l'ordre dans les 10 commandements. Alors, je vous ai mis le texte, je le simplifie en disant 6 jours tu travailleras et un jour tu te reposeras. Dieu lui-même se reposa le septième jour. Et ce n'est pas une concession faite à notre humanité. C'est dans notre ADN. Nous sommes créés à son image et en même temps, ce besoin de repos renvoie à notre finitude, au rythme de notre vie terrestre, comme dormir et manger, travailler, se reposer. Nous ne sommes pas des surhommes ou des surfemmes. La terre aussi doit se reposer des cultures. La jachère, par exemple, est pratiquée depuis la nuit des temps et elle revient à l'ordre du jour après cet épisode d'agriculture intensive que nous avons connu au XXe siècle. Nous trouvons des traces aussi de repos hebdomadaire dans l'Antiquité, chez les Chaldéens, par exemple. En revanche, pourquoi, je ne sais pas, il n'était pas pratiqué chez les Égyptiens. Parce que bafoué, le repos hebdomadaire a aussi été revendication, puis droit social, et qui a été acquis durement au cours des siècles. Un jour, puis deux jours par semaine, et nous sommes passés de... Allez, je m'arrêterai à 60 heures, jusqu'à 35 heures de travail actuellement, on parle même de la semaine de 4 jours, actuellement aussi. Ce sont des avancées sociétales importantes qui sont là pour protéger l'individu, et pourtant, le constat est dur et il est clair. Nous sommes de plus en plus sujets à toutes sortes d'anxiété, de maladies psychologiques ou psychiques. Cela dénote sans doute un point qui est comment peut-on arriver à prendre du repos dans une société d'hyperactivité ? Quand Dieu institue le sabbat, le repos officiel qui est dans le décalogue, il laisse entrevoir plus que notre récupération physique et psychique. Il s'agit de développer en fait une relation avec lui. Dans Ézéchiel, au chapitre 20, au verset 12, nous lisons « J'ai institué le jour du sabbat pour manifester la relation qui les unit à moi et leur rappeler que moi, le Seigneur, je les consacre à mon service. » Et plus loin, au verset 31, « Ce sera un signe entre moi et vous. » Jésus nous dira « Prenez un peu de repos, mais pas dans le légalisme. Prenez un peu de repos dans l'esprit, car il a inscrit sa loi dans notre cœur. Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Nous lisons dans Matthieu. Alors attention, ils prennent un bateau, mais ce n'est pas la croisière s'amuse. Ils choisissent un lieu à l'écart, à part, désert, selon la traduction de la Nouvelle Bible Second. Et surtout, surtout, ils sont avec Jésus. Après les péripéties, les attaques, les joies, les émotions faites dont nous avons parlé, physiques, spirituelles, ils se retrouvent autour de leur maître. Le texte nous dit qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Et ce qui est remarquable dans cet épisode, c'est que c'est Jésus lui-même qui les invite au repos. Parce que Jésus a vu, parce que Jésus voit nos cœurs et nos corps fatigués. Les disciples ne réclament pas une journée de repos, non. C'est Jésus qui a vu et il les invite à une pause. Venez à moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde. Un endroit désert. Alors, on sait que dans la Bible, le désert est un lieu essentiel. Il représente tour à tour l'épreuve, le dénuement, mais aussi le ressourcement. Il a toujours exercé une fascination pour l'homme. Même en dehors de la parole, nous pensons certainement à Saint-Exupéry, qui met en scène son Petit Prince, au succès planétaire. « Où sont les hommes ?» reprit le petit prince. « On est un peu seul dans le désert. »« On est seul aussi chez les hommes, » dit le serpent. Ça, c'est du Saint-Exupéry. Mais Albert Camus qui rajoute « À vivre dans le désert, on apprend à recevoir du même cœur le dénuement et la profusion. L'éternité du monde est fugitive. La fleur d'un seul jour justifie à certains instants toute l'histoire des hommes. » Et je finirai par citer le théologien Antoine Nuis qui nous dit « Au désert, il n'y a pas d'automobile, pas d'avion pour abolir les distances, pas de télévision pour passer le temps, pas d'ordinateur pour s'abîmer au travail, pas de football ou des Jeux olympiques pour se distraire, pas de café pour se retrouver entre amis, les rapports sociaux n'existent plus, l'humain est nu, dépouillé, conduit à la solitude, ramené à l'essentiel. » Le désert, c'est un peu tout cela. Et nous trouvons des exemples assez frappants de sorte de retrait au désert, de cette recherche de l'isolement pour se rapprocher de Dieu au cours de l'histoire de l'Église. Par exemple, les anachorètes, nous toujours interrogé ces anachorètes. C'était des ermites à la fin de l'Empire romain et au début du Moyen-Âge qui ont choisi de se retirer de la société séculière pour mener une vie ascétique, solitaire, consacrée à la prière, à l'Eucharistie. Ils devaient se soumettre à un rite de consécration comme des funérailles et se considérer spirituellement comme morts au monde. C'est le repos poussé à l'extrême et pour toute la vie terrestre. Mais nous avons aussi d'autres formes. Ah, pardon, j'ai oublié de vous mettre les anachorètes là, un petit peu de ce que ça donnait. Mais dans le monachisme, qui est une autre forme du retrait du monde. Il s'agit de prononcer des vœux religieux pour se séparer du monde, mais en groupe. Il apparaît dans la chrétienté aussi à la fin des années 270. Et nous avons un exemple tout proche avec l'abbaye de Lérins. Jésus nous parle donc d'un peu de temps. Et pour moi, il ne s'agit pas d'un repli définitif, mais d'un moment. Cela ressemblerait plus peut-être aux retraites spirituelles qui sont encouragées et recommandées par l'Église catholique dans les monastères une fois par an. Dans le christianisme évangélique, des temps de retraite sont pratiqués depuis le XIXe siècle et recommandés. On appelle plutôt cela des camps ou des week-ends d'Église. Prier, écouter des méditations, chanter, s'enrichir mutuellement de notre expérience avec le Christ. J'espère que nous avons tous vécu ici au moins une fois ces retraites spirituelles qui balisent notre vie chrétienne. Nous vivrons au mois de septembre notre week-end de rentrée, qui est une sorte de retraite, de temps à part ensemble pour nous lancer dans une année à venir et remettre au Seigneur nos projets. Le thème de ce week-end, « Par le Seigneur, ton Église écoute ». C'est tout un programme. Alors, mettons dès à présent cette date, 14 septembre, et ce temps à part dans nos agendas. Ici, ce sont les disciples qui se rassemblent, comme des ouvriers. Est-ce que je pourrais oser parler d'une première pastorale ? C'est un temps de ressourcement, de partage pour les ouvriers de Jésus. Marc n'est pas un évangéliste qui donne des détails, qui rentre dans le... Mais il va droit au but. Il souligne l'importance de la communion fraternelle autour du Maître. Ils se retrouvent à la fois isolés et ensemble, ces missionnaires de la première heure, avec Jésus à leur côté. Pourtant, le peu de temps qui doit être consacré à ce repos, et vous l'avez vu dans le texte, est rapidement perturbé, car... Quand il descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. La foule est l'élément perturbateur. Elle vient en courant. La foule est un personnage central dans l'Évangile. Elle a un nom qui n'a pas de nom. Elle est anonyme et puissante à la fois. C'est un assemblage étrange qui évoque un grand nombre d'individus rassemblés qu'on pourrait donner d'autres synonymes comme kyrielle, masse, meute, horde, bataillon, nuée, flot, j'ai regardé le dictionnaire. Chacun de ces mots, en revanche, revêt une connotation même péjorative. On peut même parler de troupeau. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur ce phénomène de foule. La foule n'est pas un groupe, parce qu'un groupe c'est deux personnes minimum, certes, car contrairement au groupe, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, pas d'interaction. Le hasard peut les réunir. Et en psychologie sociale, on définit la foule comme un amalgame d'individus qui appartiennent à divers groupes tous en conflit. Mais il y a une multitude d'individus. Le comportement de la foule est caractérisé aussi par des émotions telles que la peur, la colère, l'euphorie qui influencent le comportement global. J'ai été étonnée d'apprendre que l'âge mental d'une foule est généralement celui d'un enfant de moins de 7 ans. Parce qu'un individu caché dans la foule perd généralement son individualité et ses inhibitions. Nous connaissons les foules aujourd'hui et leurs travers. On est joyeux, très joyeux, enthousiaste et soudain c'est la haine, c'est la violence. Mais qui est responsable? On parle de mouvement de foule, de bousculade, où j'ai personnellement toujours peur d'être entraînée, malgré moi. Vous connaissez les moutons de Panurge? Non, ce n'est pas les moutons de Panurge. Alors elle vient en courant. Non, ce n'est pas ça. Donc, cette foule, personnage à part entière dans les évangiles, est un corps qui, tour à tour, se place du côté du plus en vue et suit Jésus quand il fait des miracles, jusqu'à l'acclamer à son entrée à Jérusalem, quand elle croit voir en lui le roi conquérant et libérateur. Et elle fait peur parce qu'elle est versatile. C'est cette foule qui va demander la crucifixion de Jésus à la place de Barabbas. Elle n'hésitera pas devant Paul dans Acte 14, où des Juifs se mêlent à la foule pour le lapider et ensuite le traîner hors de la ville. Si je me penche sur l'attitude de Jésus face à la foule, je suis interpellée. Parce que Jésus éprouve à la fois le besoin de s'en échapper, car elle vient envahir son espace, elle vient en courant, nombreuse donc, elle vient envahir son intimité, sa relation nécessaire au Père, et en même temps, il éprouve une compassion puissante. Il est ému, il a pitié. C'est ce que l'on retrouve dans Matthieu 14, qui relate le même épisode après la mort de Jean-Baptiste. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans le lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit. Quand il sortit de là-bas, qu'il vit la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit des malades. Le texte, notre texte nous dit « Le cœur de Jésus est plein de pitié pour eux. » Ici, il fut ému de compassion pour elle. Dans notre texte, la compassion de Jésus devant la foule est reliée à une prise de conscience. Tel un médecin qui va diagnostiquer une maladie, Jésus relève sa fragilité, car c'est une foule sans berger, un troupeau sans berger, nous dit le texte. Dans l'Ancien Testament, les responsables du peuple, dont le roi, sont souvent appelés bergers. David aussi était un berger, on est allé chercher dans les champs. Mais ce n'est pas seulement une image pastorale et champêtre. Les prophètes fustigent les mauvais bergers. Et je reviens encore dans Ézéchiel, alors ça ce sont les bergers dans ce sens-là. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Et plus loin au verset 5, « Mes brebis se sont dispersées sur toute l'étendue du pays » sans que personne n'en prenne soin. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et les collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays, sans que personne en prenne soin ou aille à leur recherche. Si Jésus est ému, c'est parce qu'il réalise plus que réaliser. Il le vit dans sa chair d'homme, à la fois homme et Dieu, dans son essence, qu'il est là sur terre pour aller vers ses foules errantes. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui les protège des loups, qui les protège de l'errance. Cette prise de conscience est tout de suite suivie de l'action. Jésus a ce pouvoir de guérir. Jésus est là sur terre pour enseigner, faire passer à cette foule anonyme, informe, j'ai bien insisté là-dessus, anonyme, informe, la faire passer à un individu, un sujet auquel il va s'adresser, personnellement, pour changer sa vie. Il s'adresse ainsi à la Samaritaine, à Zachée, au paralytique, à l'aveugle. Nous suivons ces miracles et il retire chacun de l'anonymat pour les individualiser devant lui. Je leur donnerai un nom nouveau. N'est-ce pas la plus belle des promesses ? Je suis devant Jésus quand il s'adresse à moi. Je ne suis pas ma famille, je ne suis pas mon église, je ne suis pas ma religion, je ne suis pas mon pays. Il m'individualise. Il m'appelle par mon nom pour me transformer et me donner la vie. Je suis toujours touchée par ce nom nouveau qu'il nous attribue et que nous retrouverons aussi dans le livre de vie. Jésus va au-delà, il transcende ainsi le repos bien mérité, comme il a, à sa manière, transcendé le sabbat en faisant des miracles le jour du repos sacré institué par Dieu, par amour, par compassion. Et qu'en est-il pour les disciples ? Si nous nous mettons à la place des disciples, la foule les perturbe aussi. Dans ce fragile espace de repos que nous recherchons, nous pouvons être dérangés dans notre prière, dans notre adoration, notre communion fraternelle. Pourtant Jésus, parce qu'il a compassion, se laisse déranger. Les disciples sont partis dans les bourgades annoncer l'évangile, ils sont revenus fatigués, ils sont ébranlés par l'assassinat de Jean-Baptiste. Et quand ils se disent « voilà, on a fait tout ce qu'on devait, vacances bien méritées, recommandées par Jésus », cette foule anonyme qui a entendu la parole se déplace vers eux et demande encore. Repos, oui, mais pour un peu de temps. Ce n'est pas la retraite tellement attendue et envisagée comme des vacances perpétuelles. Je suis à la retraite. Maintenant, je m'occupe de moi. Non, c'est rebondir. C'est rebondir parce que Jésus met en nous cet amour, cette compassion, cette urgence. Ils n'ont pas de berger. Ils sont dans l'errance. Alors, action, service. Jésus ne transforme-t-il pas nos cœurs de pierre en cœurs de chair ? Compassion. Si je lis ce texte pour moi aujourd'hui, que dois-je retenir ? Pour moi, personnellement. Je ne me projette pas forcément dans mes prochaines vacances sportives ou farnientes. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas d'un dépliant de plus pour des vacances clés en main avec le label évangélique. Vos vacances et vos choix vous appartiennent. Non, là, je retiens autre chose. Je retiens cette tension entre l'agitation et le repos que je retrouve dans ma vie de tous les jours. Je retiens ce temps à part avec Jésus, à son écoute. Une respiration dans mon activité qui donnera un sens à mon engagement. Un temps de prière. Est-ce pour autant une fuite ? Le désert est-il pour moi fuite ou refuge ? Je ne dois certainement pas craindre le silence devant Dieu et loin des hommes. Je retiens aussi un temps à part avec mes frères et sœurs où le silence et la prière dirigent notre cœur vers l'essentiel. Un temps d'écoute des uns des autres, d'encouragement, sous la grâce. Les disciples viennent rendre compte à Jésus et non rendre des comptes à Jésus. Jésus les encourage. Et enfin, je retiens la disponibilité, celle de Jésus. Et des nouvellement nommés apôtres en est un bel exemple. Suis-je capable, moi, de me laisser déranger ? Ce temps à part n'est pas un but en soi, mais une étape, un peu de temps. La foule frappe à nos portes. Si nous ne sommes pas disponibles, elle se dirigera vers d'autres portes, vers des bergers mercenaires. Quelle est ma responsabilité ? L'Église, c'est-à-dire nous, non pas les apôtres, mais les disciples de Jésus, nous, savons-nous encore nous laisser sainement déranger parce que émus de compassion ? Savons-nous profiter du temps de repos offert en Christ ? Oasis de paix et de communion avec notre Créateur, préfiguration de la plénitude, du repos éternel auprès du Père. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme, près de l'eau. Prions. Mon Dieu, mon Père, conduis-nous vers ce repos en toi et par toi. Rends nos cœurs émus de compassion. Dirige-nous à ton service. Amen.